En avant la musique, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission des musiques traditionnelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des cornemuses d'Auvergne, la cabrette, avec un spécialiste du domaine. Depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, ce Cantalou d'origine s'est passionné pour la culture des pays d'Auvergne. Il a recueilli la mémoire de centaines de femmes et d'hommes de ce territoire. Et ces dernières années, il a mis en forme ses connaissances en publiant plusieurs ouvrages que nous allons évoquer. Il a été le fondateur et directeur de l'AMTA, créateur du label de disques Silex, fondateur de la compagnie L'Auvergne Imaginée et artiste aux nombreux spectacles. Je reçois aujourd'hui André Ricrot. Bonjour André.
Bonjour José Dubreuil.
Alors une vie bien remplie et une retraite qui ne l'est pas moins. Vous êtes insatiable. C'est un de vos traits de caractère ?
Bon, ça, c'est difficile à dire. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de mon caractère.
Ah bon ?
De mon mauvais caractère, oui, sûrement.
Bon, en principe, on se connaît un petit peu. Bah, surtout pour des gens comme vous qui êtes intéressés par la psychologie.
Mais depuis que je suis à la retraite, je ne me rends plus compte de rien.
Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, et eh oui, parce qu'il y en a encore sûrement
mais
aux quatre
de
coins de l'Auvergne, et puis il y a les nouveaux arrivants. Alors, comment résumeriez-vous ces 40 dernières années professionnelles ?
Ouh là là !
En fait, qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Depuis 40 ans.
Ah ben, le plaisir d'être en vie.
Oui.
Le plaisir de vieillir. Ça, c'est génial.
Le plaisir de vieillir.
Ben oui, c'est une chance de vieillir. C'est qu'on n'est pas mort.
C'est vrai. On peut voir les choses de cette manière-là.
Voilà.
Alors, comment vous résumeriez votre trajectoire professionnelle ? Allez, racontez-nous.
Oh, non, c'est trop long. Non, j'ai eu la chance. Je résume ça de cette manière. J'ai eu la chance que les activités professionnelles qui furent les miennes, parce qu'il y en a eu plusieurs, à chaque fois, furent en résonance avec les passions qui étaient les miennes au moment où je faisais telle activité ou telle autre.
D'accord.
Donc ça, je pense que c'est la chose la plus importante.
Donc vous avez fait musicien professionnel ?
Oh, j'ai fait plus que ça, mais bon, peu importe.
Musicien professionnel, ensuite vous avez fait directeur de l'AMTA, c'est-à-dire développer des projets autour du patrimoine immatériel de la région ? Hein, avec à convaincre les uns et les autres de l'intérêt supérieur de ce sujet. Vous avez été directeur de label, le vôtre, Silex, et celui d'autres aussi, comme chez Ovidis par exemple. Mais vous savez mieux que moi quand même ce qu'a été votre vie professionnelle.
Je pense que la vie professionnelle, elle est intéressante que pour celui qui la vit, pour le... Les gens qui écoutent...
Si, ça permet de situer.
C'est une activité... en fait, on fait des travaux qui sont souvent, vus de l'extérieur, très, très loin les uns des autres. Mais pour soi-même, ils sont très proches. Donc, c'est compliqué de parler de sa vie professionnelle. C'est des passions, c'est des rencontres. Et c'est quand même une part de chance et puis de volonté acharnée. Voilà, en gros, ce que c'est qu'une vie professionnelle. C'est pas plus que ça.
Thank you. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est André Ricrot à la Cabrette, dans un disque rencontre avec Louis Clavis, le partage des eaux sur des arrangements d'Alain Gibert.
En avant la musique, José Dubreuil.
Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'André Ricrot qui a enregistré de nombreux albums comme celui que nous venons d'écouter. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'écrivain André Ricrot. Alors André Ricrot, combien oui. ces 10 dernières années avez-vous grosso modo écrit de livres ?
Je n'ai pas compté une dizaine.
Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Et sur des sujets assez divers finalement, mais qui tournent toujours autour du même moteur.
Presque, oui, c'est vrai. Ouais. Donc il y a une partie qui sont des ouvrages qui sont à caractère ethno, on va dire, hein, qui sont des livres qui sont en lien avec un travail de recherche sur la région, et puis une partie fictionnelle. Qui est à peu près...
Peut-être, comme Castagnier, berger du Redondet.
Oui, ou Tout en haut, la mer est immense, ou 16 morts pour un barrage, etc. Mm-hmm. Les passeurs.
Les passeurs, c'est lié quand même beaucoup votre expérience de collectage.
Oui, mais pour moi, ça reste quand même plus de la littérature que de l'endo, parce qu'il y a une partie mm-hmm. inventée, malgré tout. Mm-hmm.
Les passeurs. Alors, dans les derniers, ça tourne beaucoup autour de la Cabrette. Je le disais en début d'émission, la Cabrette, c'est quand même votre sujet de prédilection, non ?
Mais le sujet, sûrement, mais c'est l'instrument que je joue. Donc, c'est une relation affective. Quoi.
Quand est-ce que ça a commencé, cette histoire d'amour avec la Cabrette ? Et ça a commencé comment ?
Alors, ça a commencé, j'étais... animateur de colonie de vacances.
Et j'amenais Oula, un groupe. Ça nous ramène loin, ça.
J'avais 17 ans. Ah. J'amenais un groupe de la vallée du Goul sur le Larzac pour participer à la construction de la bergerie. Et en traversant l'Aubrac, j'ai entendu le soir, quand on allait vers un terrain que nous avait prêté pour installer les tentes, et il y a quelqu'un qui jouait dans une maison avec la porte ouverte. Et j'ai entendu ce son et j'ai gardé ce son. Alors que sûrement mon père aurait souhaité que je joue de l'accordéon chromatique.
Et qu'il jouait, lui.
Il jouait du diatonique et du chromatique. Mmh. Et moi, j'ai tout fait sans en parler à personne, avec les économies que j'avais fait en tant que moniteur de colonie de vacances, pour acheter une cabrette que j'ai trouvée à Rodez, qui est fabriquée par un boulanger qui s'appelait Ré. Mmh. Et elle marchait par des quarts de ton, quasiment, c'était injouable. C'était une cabrette... Arabo Auvergnat.
et en fait, quand on a une passion comme ça pour un instrument, souvent, c'est une belle histoire au départ, comme celle que vous venez de nous raconter, ou alors c'est la rencontre avec un individu, enfin c'est les deux, là d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas parlé avec lui, mais...
Mais c'est le son, parce que je pense que quand on entend, par exemple, quelqu'un qui chante et qui vous bouleverse, vous pouvez, après, dans le courant de votre vie... faire en sorte d'apprendre le chant. C'est pas que la qualité de la pédagogie, ça compte dans l'enseignement, mais c'est le choc émotionnel qui fait qu'on est intéressé pour une pratique artistique. Mmh. Et d'ailleurs, dans les cadres des enseignements artistiques, cette dimension devrait être prise en compte bien plus que la technique ou la virtuosité, parce que ça, c'est moyennement intéressant. Mmh.
Thank you. bal en Haute-Auvergne. J'espère que vous avez tous dansé avec Géraud Felgine à l'accordéon, Jean-Claude Rossignol à la batterie et André Ricrot à la cabrette. Alors André, c'est votre dernier album dans un style très différent de tout ce que vous avez enregistré jusqu'à aujourd'hui. Alors ça correspondait pour vous à quel besoin, à quelle envie de faire un disque avec ces deux comparses ?
Petite précision, il y en a deux après celui-là. Deux autres albums.
Dans l'ordre, il y a le cochon.
Il y a le cochon et il y a les dernières nouvelles du diable.
Voilà, c'est pas le dernier. Bon,
pas le dernier.
Alors, raté.
Alors, pour répondre à la question sur pourquoi une musique un peu brute comme ça, mais c'est que dans le cadre de l'Auvergne imaginée, on s'est toujours inspiré de ces matériaux qui nous ont servi de base aux créations qu'on a pu réaliser avec Alain Gibert. Et de temps en temps, c'est bien de revenir aux sources, parce qu'on peut s'égarer en chemin. Et donc, voilà, je tenais absolument à faire un disque comme ça. D'abord, j'aime cette musique de bal. Et plus ça va, plus je suis attiré pour revenir à des choses que je pratiquais au tout début, quoi, quand j'avais 17 ou 18 ans.
C'est un son qu'on a bien, quand on fait partie de nos générations, qu'on a bien dans l'oreille, parce qu'on a entendu ça dans tous les bals, dans toutes les fêtes votives.
Oui, puis je trouve que c'est une musique qui a une espèce d'énergie qui est assez proche de ce que j'apprécie dans la musique irlandaise. Alors, comme c'est très loin, les gens qui habitent notre région apprécient souvent la musique irlandaise, mais à contrario, celles-là, ils sont un peu... Ça froisse un peu leur mémoire ou leur sentiment d'appartenance, mais en même temps, vu de l'extérieur, elle produit le même effet que la musique irlandaise sur nous.
Pour les étrangers,
ouais.
Souvent. Alors, j'aimerais bien, avant qu'on passe au dernier livre, cette fois-ci, je ne vais pas me tromper, qu'on parle de l'avant-dernier livre, celui que vous avez fait sur Buscatel. Parce que quand même, c'était quelqu'un de très important dans la vie de la cabrette, dans l'histoire de cette cornemuse d'Auvergne. C'était qui, Buscatel ?
Buscatel, c'était un musicien professionnel qui opérait à Paris, qui était patron de bal musette, et donc qui jouait de la musette, qui est de la cabrette auvergnate.
Pourquoi ce nom de musette ?
Alors musette, c'est donc là c'est encore une question à tiroir, parce que c'est un nom qui est générique et qui signifie plein de choses. Une musette, ça peut être un hautbois d'armée, c'est tout ce qui est cornemuse, la plupart, les musettes de cour, les musettes du centre, etc. Musette, c'était un genre, les bals musettes, et puis le musette, c'est encore un autre genre musical, qui est la musique d'accordéon après la guerre, on va dire, de 14-18. Ouais.
Et ça a un lien avec la cabrette ?
Tout n'a pas un lien avec la cabrette. Donc c'est un mot qui
raconte valise.
Plein d'histoires. Donc musette, c'est un terme générique, malgré tout, pour définir une cornemuse. Mais ce n'est pas absolument certain que ce soit une cornemuse, ça peut être un hautbois, donc oui, c'est un peu compliqué. Mais à Paris, comme la musette de cour 17e-18e était une cornemuse, le terme musette est resté dans le milieu urbain, alors que lorsqu'on était sur le territoire auvergnat, où on appelait cet instrument cabrette.
Et qu'est-ce que ça a à voir, la cabrette, avec le genre musette ? Il n'y a pas la cabrette.
Il y a une relation historique, sûrement. C'est-à-dire que comme les bals étaient faits à la musette, c'est-à-dire uniquement à la cabrette, un joueur de cabrette, suspendu à 2 mètres de haut sur une estrade, on lui retirait l'échelle, il jouait pendant 6 ou 7 heures sans descendre. Il n'avait pas besoin de descendre pour aller faire pipi, il transpirait tellement que l'affaire était réglée.
On lui a amené à boire, au moins, là-haut.
C'est pas
il avait un stock, non ?
Oui, je sais pas. Oui, peut-être, sûrement. Il avait intérêt à boire de l'eau parce que sinon il aurait été mal. Et par ailleurs, donc, comme il était patron de bal, il était musicien de bal. Et quand l'accordéon a remplacé la cabrette après la guerre de 14, parce qu'après chaque guerre, il y a un changement musical qui s'opère, c'est systématique. La guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 39, à chaque fois, il y a quelque chose qui. La musique avant la guerre ne peut plus être entendue et pratiquée, ni les danses après la guerre. Parce que c'est comme si on faisait en sorte que la guerre revienne. Donc ça, ce n'est pas envisageable. Donc après la guerre de 14, les gens qui jouaient de la musette, de la cabrette, et qui voulaient reprendre leur place dans les bals, à la musette, se sont vus supplantés par des gens qui jouaient de l'accordéon chromatique, en grande partie un peu de diatonique ou de mixte. Et ils ont gardé le terme, mais la musique n'était pas du tout la même. Parce qu'en fait, on se retrouve... Donc c'est un autre monde. Et c'est la valse qui est dominée. Et c'est plus labouré.
Alors, que ce soit le livre consacré à Bouscatel ou celui de la cabrette, moi je suis tentée de dire que jamais une telle somme de connaissances n'a été publiée. Votre dernier livre, La cabrette, histoire et technique d'une cornemuse, comprend 820 pages. Du coup, je tiens à le dire quand même, c'est un inconvénient majeur parce que on ne peut absolument pas lire ce livre au lit. Et c'est agréable de lire au lit. Et là, c'est quand même pas possible parce que je l'ai pesé, il fait près de 3 kilos. Donc, à moins de vouloir s'endormir en faisant des haltères, ça devient délicat. Alors, pour ce dernier, vous vous êtes assuré de la collaboration d'émérites passionnés sur ce sujet. Vous nous les présentez, vos collaborateurs pour
Absolument.
Ce livre ?
Oui, parce que ça, c'est essentiel. Mais une petite parenthèse. C'est un livre qu'on peut lire justement au lit, parce que dès que vous fatiguez, il vous tombe dessus et il vous
endort. Et ça endort tout de suite,
direct.
Voilà, c'est ça.
Donc ça, c'est une bonne méthode. Pour ceux qui sont insomniaques, il n'y a pas besoin de prendre des cachets, ils lisent le livre sur la cabrette. Alors en ce qui concerne l'équipe qui a travaillé sur cet ouvrage, et c'est un élément essentiel, parce que seul, on ne peut pas réaliser un document pareil. Ce n'est pas possible. En fait, il y a... 1, 2, 3, 4, 5 personnes, on est 6 à avoir participé à cet ouvrage, du point de vue de l'écriture. Mais en fait, c'est des centaines d'individus qui ont fait un petit bout de recherche, qui ont trouvé un élément, qui ont trouvé un instrument. Donc, c'est énormément de monde. C'est des centaines de personnes qui ont œuvré pour que ce livre existe. Seul, c'est impossible de réaliser un ouvrage comme ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment important et que le travail qu'on a réalisé dans le cadre du Centre de musique traditionnelle de l'Auvergne, qui est l'AMTA, c'est dans cet esprit qu'on a travaillé en faisant travailler plein de gens ensemble. Donc, les gens qui ont participé, il y a Éric Mombel qui a écrit sur des domaines particuliers, c'est-à-dire toutes les cornemuses qui sont autour de la cabrette. Mmh. Il a fait également un article très important sur la musette de cour et... un autre sur les cornemuses gaillards. Et il a participé également à défendre une hypothèse quant à la naissance de la cabrette. L'autre personne est Didier Père, qui a fait...
De Haute-Loire.
De Haute-Loire, qui est un chercheur émérite, et qui a fait un article très important, qui est une somme sur l'utilisation de la cabrette dans le département de la Haute-Loire, et qui a fait également un article sur la partie linguistique. Comment les termes de cet instrument sont nommés dans la zone occitane. Il y a également Bernard Blanc qui a fait l'article sur la partie technique.
Alors Bernard Blanc, c'est un luthier qui
Bernard
est situé
Blanc, c'est
à Vichy.
Sûrement un des grands luthiers de cornemuse qui est connu dans le monde entier et qui a fait un travail remarquable pour relancer toutes les cornemuses du centre et qui a écrit la partie sur comment réaliser, comment... sont réalisés ces instruments. Et il y a une autre personne qui a travaillé sur... et qui a été décisive aussi, c'est Michel Chavanon, qui a fait toutes les recherches d'archives pour retrouver les documents du début du 19e siècle concernant tous les fabricants qui sont nés au 19e siècle. Et puis, il y a le dernier qui a fait un article sur la fabrication des anges, qui est un peu l'âme, entre guillemets, de la cabrette et qui s'appelle Marius Lutgerink.
Très bien. Vous êtes d'accord pour écouter un petit coup de Bouscatel ?
Ah ben, si
savoir de quoi on cause ?
Allons-y. Thank you.
Antoine Bouscatel à la cabrette et Jean Sanit à l'accordéon.
Le dimanche, 12h30, 13h, en avant la musique, sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Allez, c'est le moment de vous donner quelques idées de sortie. Et puis, comme d'habitude, j'ai été les sélectionner dans l'agenda de l'AMTA que vous pouvez retrouver sur leur site internet amta.fr. Ou si vous voulez avoir quelques conseils de sortie, vous pouvez aussi les appeler au 04 73 64 6000 ou aller les voir à Arion au 1 route d'Enza. Alors, le vendredi 30 mars, bien justement, l'AMTA et le Centre départemental des musiques et danses traditionnelles de Haute-Loire vous invitent au Brignon en Haute-Loire à participer à la soirée projection du film Alentour du puits, paroles des habitants du Velay. Et évidemment, vous pourrez danser avec les musiciens du CDMDT et l'entrée est gratuite. Le samedi 31 mars à 21h à la salle des fêtes de Châteauneuf-les-Bains, concerts et baltrades avec la compagnie Morel et Frères, les Modigans et Combovix. Alors c'est du rock celtique et du chant de marin. L'organisation est des Gaulois, des Combrailles. Et n'oubliez pas, le 1er avril, c'est la fête du Bon Coin à Ghana avec Tiketak, Baltimbank, Ribouledang et Mal. Et vous, André, où est-ce qu'on peut vous retrouver très prochainement ?
Nous faisons un bal le 30 du mois à Cassagnouz.
D'accord, dans le Cantal, donc dans le sud du Cantal.
Ça vaut vraiment le coup de venir le 30 parce qu'on est au sud du Cantal, donc on aura à peu près 15 à 20 degrés de plus qu'ici. Donc s'il y en a qui veulent venir bronzer, c'est le moment.
Et alors là-bas, vous y êtes avec qui ? Le trio de choc qu'on a entendu tout à l'heure avec Rossignol, Feljin. Alors Rossignol, c'est à la batterie, Feljin à l'accordéon et vous-même à la cabrette, c'est ça ?
C'est cela même.
Ah ben, voilà.
Et puis il y a une autre chose, c'est qu'on fait une conférence avec Didier Père au Puy le 18 mai.
18 mai.
À partir pour présenter l'ouvrage dont vous avez parlé aujourd'hui.
D'accord. L'ouvrage dont vous allez nous rappeler le titre.
Mais La Cabrette, histoire et tactique d'une cornemuse.
Nous voilà arrivés au terme de notre émission. On se quitte pour mieux se retrouver dimanche prochain et on va se quitter avec le trio Feljin, Rossignol, Ricro. D'ici là, prenez soin de vous et passez un bon dimanche. Merci André.
Merci à vous.